Chapitre 7. La voiture s'arrêta devant une maison de médiocre apparence, dans une rue détournée et solitaire. Vous connaissez ces maisons du siècle dernier qui n'ont pas été touchées depuis leur fondation et que l'avarice de leurs propriétaires laisse lentement tomber en ruine. Ce sont des murailles grises que la pluie a verniculées et qui sont frappées çà et là de larges taches de mousse jaune, comme le tronc des vieux frênes. Le bas en est vert comme un marécage au printemps, et l'on pourrait composer une flore spéciale de toutes les herbes qui y poussent. L'ardoise du toit n'a plus de couleur. Le bois de la porte se dissout en poussière et semble près de voler en éclats au moindre coup de marteau. De fausses fenêtres, autrefois barbouillées en noir pour simuler des carreaux, et dont la peinture a coulé du second étage jusqu'au premier, montrent que l'on a fait, en bâtissant la maison, les efforts les moins heureux pour atteindre à la symétrie. Une girouette de fer blanc découpé, où l'on voit un chasseur qui tire un coup de fusil à un lièvre, grince à l'angle du toit et couronne dignement la somptuosité de l'édifice. Le groom abattit le marchepied et frappa à la porte d'un coup magistral qui faillit l'effondrer. La portière, effarée de surprise, passa la tête par un carreau cassé qui lui servait de vasistas et de guichet. La tête de la portière tenait à la fois du mufle, de la hure et du groin. Son nez d'un cramoisi violent, taillé en forme de bouchon de carafe, était tout diapré d'étincelantes bubelettes. Ses verrues ornées chacune de 3 ou 4 poils blancs, d'une roideur et d'une longueur démesurées, pareilles à ceux qui hérissent le museau des hippopotames, donnaient à ce nez l'air d'un goupillon à distribuer l'eau bénite. Ses deux joues, traversées de fibrilles rouges et martelées de plaques jaunes, ne ressemblaient pas mal à 2 feuilles de vigne safranées par l'automne et grillées par la gelée. Un petit œil véron, affreusement écarquillé, tremblotait au fond de son orbite comme une chandelle au fond d'une cave. Une espèce de croc, d'un ivoire douteux, relevait le coin de sa lèvre supérieure en manière de défense de sanglier, et complétait le charme de cette physionomie. Les barbes de son bonnet, flasques et plissées comme des oreilles d'éléphant, tombaient nonchalamment le long de ses mâchoires possues et encadraient convenablement le tout. Musidora ne fut pas éloignée d'avoir peur à la vue de cette méduse grotesque qui fixait sur elle 2 prunelles d'un gris sale toutes pétillantes d'interrogation. « Monsieur V est-il chez lui ?» demanda l'Arabelle. « Certainement, madame, qu'il y est. Il ne sort jamais qu'aux heures de sa leçon, ce pauvre cher homme, un homme bien savant qui ne fait pas plus de train dans la maison qu'une souris privée. » C'est au fond de la cour, l'escalier à gauche, au second, la porte où il y a un pied de biche. Il n'y a pas à se tromper. La Musidora et l'Arabelle traversèrent la cour en relevant le bas de leur robe comme si elles eussent marché dans une prairie mouillée de rosée. L'herbe poussait entre les fentes des pavés aussi librement qu'en pleine terre. Mais, voyant qu'elles hésitaient, l'affreux dogue coiffé sortit de sa loge et s'avança en se dandinant et en traînant la jambe comme un faucheux blessé. « Par ici, mesdames, par ici. Voilà le chemin au milieu. C'est que ce n'est pas ici une de ces maisons qui sont comme des républiques, où l'on ne fait qu'aller et venir. Il n'y a pourtant pas plus de 6 semaines que j'ai gratté tout le pavé avec un outil, même que j'en ai mes pauvres mains pleines de durillon. Est-ce que vous seriez parente de Monsieur V ?» Musidora fit un signe négatif. C'est que je lui avais entendu dire qu'il avait des parentes en province qui devaient venir à Paris. On était arrivé devant la porte de Monsieur V, et, comme ni Arabelle ni Musidora ne lui avaient répondu, l'animal visqueux et gluant empoigna la rampe et se laissa couler en grommelant jusqu'au bas de l'escalier, s'en rapportant à la discrétion de Mademoiselle Césarine, gouvernante du savant, pour de plus amples informations. Arabelle tira le pied de biche. Un cling-clang, éraillé et grêle, provenant d'une sonnette fêlée, se fit entendre dans les profondeurs mystérieuses de l'appartement. 2 ou 3 portes s'ouvrirent et se refermèrent dans le lointain. Une toux sèche se fit entendre, et un bruit de pas alourdi s'approcha de la porte. Ce fut encore pendant quelques minutes un bruit de clés et de ferrailles, de verrous tirés, de cadenas ouverts, puis la porte, légèrement entrebâillée, donna passage au nez pointu et inquisiteur de Mademoiselle Césarine, beauté hors d'âge et ne marquant plus depuis longtemps. À la vue des deux jeunes femmes, sa physionomie prit soudain une expression revêche, tempérée cependant par le respect que lui inspirait l'éclat de la chaîne d'or qu'Arabelle portait à son cou. « Nous voudrions parler à Monsieur V. » La vieille fille ouvrit la porte tout à fait et introduisit nos deux belles dans une antichambre servant aussi de salle à manger, tapissée d'un papier vert jaspé, ornée de gravures encadrées représentant les quatre saisons et d'un baromètre enveloppé d'une chemise de gaze pour le préserver des mouches. Un poêle de faïence blanche dont le tuyau allait s'enfoncer dans le mur opposé, une table en noyer et quelques chaises foncées de paille formaient tout l'ameublement. De petits ronds de toile cirée étaient placés devant chaque siège pour ménager la couleur rouge du carreau. Et une bande de tapisserie allait de la porte d'entrée à la porte de l'autre chambre, aussi dans le but de conserver la précieuse couche d'ocre de Prusse, si soigneusement cirée et passée au torchon par Césarine. Césarine recommanda aux deux jeunes femmes de suivre la bande de tapisserie, ce qui fit sourire Musidora, qui était plutôt préoccupée de l'idée de ne pas salir ses souliers que de celle de ne pas salir le parquet. La seconde pièce était un salon tendu de jaune avec un meuble en vieux velours d'Utrecht, également jaune, et dont les dossiers limés et râpés prouvaient de longs et de loyaux services. Les bustes de Voltaire et de Rousseau, en biscuit, ornaient la cheminée conjointement avec une paire de flambeaux de cuivre doré garnis de bougies. Et une pendule dont le sujet était le temps faisait passer l'amour, ou l'amour faisant passer le temps, je ne sais trop lequel. Le portrait de Monsieur V à l'huile et celui de Madame sa femme, heureusement trépassé, en grande toilette de 1810, faisaient de ce salon l'endroit le plus splendide de l'appartement. Et Césarine, elle-même, troublée de tant de magnificence, ne le traversait qu'avec un certain respect intérieur, quoique depuis longtemps elle dût être familiarisée avec ses splendeurs. La duègne pria les deux visiteuses d'avoir la bonté d'attendre quelques minutes, et qu'elle allait prévenir monsieur, qui était enfermé dans son cabinet, occupé, selon son habitude, de recherches savantes. Il était debout devant la cheminée dans l'attitude de la plus véhémente contemplation. Il tenait entre le pouce et l'index un petit morceau d'échaudé dont il faisait tomber de temps en temps quelques miettes dans un bocal rempli d'une eau claire et diamantée, où se jouaient trois poissons rouges. Le fond du vase était garni de sable fin et de coquilles. Un rayon de jour traversait ce globe cristallin que les mouvements des trois poissons nuançaient de teintes enflammées et changeantes comme l'iris du prisme. C'était réellement un très beau spectacle, et un coloriste n'eût pas dédaigné d'étudier ces jeux de lumière et ces reflets étincelants. Mais Monsieur V ne faisait nullement attention à l'or, à l'argent et à la pourpre dont le frétillement des poissons teignait tour à tour la prison diaphane qui les enfermait. « Césarine, dit-il avec l'air le plus sérieux et le plus solennel du monde, le gros rouge est trop vorace, il avale tout et empêche les autres de profiter. Il faudra le mettre dans un bocal à part. » C'était à ces graves occupations que Monsieur V, professeur de chinois et de mandchou, passait régulièrement 3 heures par jour, soigneusement enfermé dans son cabinet, comme s'il eût commenté les préceptes de la sagesse du célèbre Confucé ou le traité de l'éducation des vers à soie. Il s'agit bien des poissons rouges et de leurs querelles, dit Césarine d'un ton sec. Il y a dans le salon 2 dames qui veulent vous parler. À moi ? 2 dames, Césarine ? S'écria le savant alarmé, en portant une main à sa perruque et l'autre à son haut-de-chausse, qui, trop négligemment attaché, laissait apercevoir la chemise entre la ceinture et le gilet comme par un crevé à l'espagnol. 2 dames jolies ? Jeunes ? Je ne suis guère présentable. Césarine, donne-moi ma robe de chambre. Ce sont sans doute des duchesses qui auront lu mon traité sur la ponctuation du mandchou et qui seront devenues amoureuses de moi. Il fourra en tremblant de précipitation ses maigres bras dans les vastes manches de sa houppelande et se dirigea vers le salon. En voyant Arabelle et Musidora, le vieux savant, ébloui, renfonça sa perruque jusque sur ses yeux et leur fit 3 saluts. Qu'il s'efforça de rendre les plus gracieux possibles. Monsieur, dit la Musidora, il n'est bruit dans toute la France et dans toute l'Europe que de votre immense savoir. Mademoiselle, vous êtes bien bonne, dit le professeur, qui rougit de plaisir comme un coquelicot. L'on dit, continua l'Arabelle, qu'il n'y a personne au monde qui soit plus versé dans la connaissance des langues orientales et qui lise plus couramment ces mystérieux caractères hiéroglyphiques dont la connaissance est réservée aux sagacités les plus érudites. Sans me flatter, je sais du chinois autant qu'homme de France. Madame a-t-elle lu mon traité sur la ponctuation mandchou ? Non, répondit Arabelle. Et vous, mademoiselle ? Fit le savant en se tournant vers Musidora. Je l'ai parcouru, dit-elle, en comprimant avec peine un éclat de rire. C'est un ouvrage très savant et qui fait honneur au siècle qui l'a produit. Ainsi, reprit le savant, bouffi d'orgueil et faisant la roue dans sa gloire, vous partagez mon avis sur la position de l'accent tonique. Complètement, répondit Musidora. Mais ce n'est pas cela qui nous amène. Au fait, dit le savant, que voulez-vous de moi, mesdames? En quoi puis-je vous obliger? Je ferai tout au monde pour être agréable à de si charmantes personnes. Monsieur, fit Musidora, en présentant au sinologue le portefeuille qu'elle tenait sous sa mantille, si ce n'était abusé de votre complaisance et de votre savoir, nous désirerions avoir la traduction de ces deux papiers. Le savant prit les deux feuilles que lui tendait Musidora et dit avec un air capable. Ceci est du véritable papier de Chine et ceci du papyrus authentique. Puis il arbora sur son vénérable nez une majestueuse paire de lunettes. Mais il ne put déchiffrer un seul mot. Il se tourmentait considérablement sans avancer pour cela dans sa lecture. « Mesdames, je suis désolé, dit-il en rendant le portefeuille à Musidora. Cette écriture entrelacée est vraiment indéchiffrable. Tout ce que je puis vous dire, c'est que ces caractères sont chinois et tracés par une main très exercée. » « Vous savez, mesdames, qu'il y a 40 000 signes dans l'alphabet chinois correspondant chacun à un mot. Quoique j'aie travaillé toute ma vie, je ne connais encore que les 20 premiers 1000. Il faut 40 ans à un naturel du pays pour apprendre à lire. Sans doute les idées contenues dans cette lecture sont exprimées avec des signes que je n'ai pas encore appris et qui appartiennent aux 20 derniers 1000. Quant à l'autre papier, c'est de l'indostanie. Monsieur C vous traduira cela au courant de la plume. » Musidora et sa compagne se retirèrent très désappointés. La visite chez Monsieur C fut aussi inutile, par l'excellente raison que Monsieur C n'avait jamais su d'autre langue que la langue esquara ou patois basque, qu'il enseignait à un Allemand naïf, seul élève de son cours. Monsieur V n'avait de chinois qu'un paravent et deux tasses, mais en revanche, il parlait très couramment le bas breton et réussissait dans l'éducation des poissons rouges. Ces deux messieurs étaient du reste deux très honnêtes gens qui avaient eu la précieuse idée d'inventer une langue pour la professer aux frais du gouvernement. En passant sur une place, Arabelle vit des jongleurs indiens qui faisaient des tours sur un méchant tapis. Ils jetaient en l'air des boules de cuivre, avalaient des lames de sabre de 30 pouces de longueur, mâchaient de la filasse et rendaient de la flamme par le nez comme des dragons fabuleux. « Musidora, dit Arabelle, ordonne à ton groom de faire approcher un de ces coquins basanés. Il en saura peut-être plus sur l'Indostanie que les professeurs du Collège de France. » Un des jongleurs, sur l'injonction du groom, s'approcha de la voiture en faisant la roue sur les pieds et sur les mains. « Drôle, dit Arabelle, un louis pour toi si tu lis ce papier, qui est écrit en Indostanie. » « Madame, excusez-moi, je suis normand, indien de mon métier, et je n'ai jamais su lire en aucune langue. »« Va-t'en au diable, dit Musidora, en lui jetant 5 francs. » L'indien de contrebande la remercia, en faisant un magnifique saut périlleux, et fut rejoindre ses compagnons frottés de jus de réglisse. La voiture prit le chemin du boulevard. À la porte d'un bazar, un jeune homme avec une figure jaune d'or, des yeux épanouis au milieu de sa pâleur comme de mystérieuses fleurs noires, le nez courbé, les cheveux plats et bleuâtres, tous les signes de race asiatique, était assis mélancoliquement derrière une petite table chargée de 2 ou 3 livres de dattes, d'une demi-douzaine de cocos et d'une paire de balances. Il était impossible de voir rien de plus triste et de plus évidemment frappé de nostalgie que ce pauvre diable, ramassé en boule sous un maigre rayon de soleil. Sans doute il pensait aux rives verdoyantes de l'oubli, à la grande pagode de Jaggernaut, aux danses de Bibiaderi dans les chauderies et à la porte des palais. Il se berçait dans quelque inexplicable rêverie orientale, toute pleine de reflets d'or, imprégnée de parfums étranges et retentissante de bruits joyeux. car il tressaillit comme un homme qu'on réveille en sursaut lorsque le groom de Musidora lui fit signe que sa maîtresse voulait lui parler. Il arriva avec sa petite boutique suspendue à son cou et fit un salut profond aux deux jeunes femmes en portant les deux mains à sa tête. « Lis-nous ceci, » dit Musidora en lui présentant le papyrus. Le marchand de dattes prit la feuille qu'on lui tendit et lut avec un accent singulier et profond ces caractères qui avaient résisté aux lunettes de deux savants. Musidora palpitait de curiosité inquiète. « Excusez-moi, madame, » dit le marchand en essuyant une larme qui débordait de ses yeux noirs. « Je suis le fils d'un Raja. Des malheurs trop longs à vous raconter m'ont fait quitter mon pays et réduit à la position où vous me voyez. Il y a 6 ans que je n'ai entendu ou lu un mot de ma langue. C'est le premier bonheur que j'ai éprouvé depuis bien longtemps. Ce papyrus contient une chanson qui a 3 couplets. Elle se chante sur un air populaire de notre pays. Voici ce que ces vers signifient. Les papillons, couleur de neige, volent par essaim sur la mer. Beau papillon blanc, quand pourrais-je prendre le bleu chemin de l'air. Savez-vous, ô belle des belles, ma bayadère aux yeux de jais, s'ils me voulaient prêter leurs ailes, dites, savez-vous où j'irai? Sans prendre un seul baiser aux roses, à travers vallons et forêts, j'irai à vos lèvres mi-closes, fleurs de mon âme, et j'y mourrai. Musidora donna sa bourse au marchand de dattes, qui lui baisa la main avec l'adoration la plus profonde. Je vais retourner dans mon pays. Que Brahma veille sur vous et vous comble de bien, dit le Raja dépossédé. Musidora, après avoir mis Arabelle chez son amant, rentra dans sa maison aussi peu instruite qu'elle en était sortie. Le cerveau travaillait de la plus irritante curiosité et le cœur bouleversé par un commencement de passion sincère. Elle n'avait plus aucun moyen de trouver la trace de Fortunio. Georges, qui paraissait en savoir sur son compte beaucoup plus long qu'un autre, était muet comme Harpocrate, le dieu du silence, et ne pouvait d'ailleurs aider Musidora à lui gagner la calèche. Fortunio, Fortunio, as-tu donc à ton doigt l'anneau de Gisès qui rend invisible à volonté ?